La parole du jour avec Claude Frisch, diacre.
Bonjour chers auditeurs de Radio Grand Ciel. Donc je vais aujourd'hui aborder un autre psaume, c'est le psaume numéro 8. En fait, c'est un psaume assez original puisque il célèbre la grandeur de Dieu par la grandeur de l'homme. C'est l'homme dans ce psaume qui justifie l'existence de Dieu. Yahvé notre Seigneur, magnifique est ton nom par toute la terre. Que monte jusqu'aux cieux l'hommage à ta splendeur, de la bouche d'enfants et de nourrissons, face à tes ennemis, tu assieds une force qui fasse taire l'ennemi revanchard. Quand je vois tes cieux, l'ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas, qu'est-ce que l'homme que tu te souviennes de lui, le fils d'Adam pour que tu veuilles le visiter? Il s'en faut de peu qu'il ne soit un Dieu, lui que tu couronnes de gloire et de splendeur. Tu lui donnes pouvoir sur l'œuvre de tes mains, et sous ses pieds tu courbes tout. Eux tous, les moutons et les bœufs, et jusqu'aux bêtes des campagnes, les oiseaux du ciel, les poissons des mers, les êtres qui sillonnent les sentiers des eaux. Yahvé notre Seigneur, magnifique est ton nom par toute la terre. Alors, comme je vous le disais, c'est un psaume qui chante la gloire de Dieu en exaltant l'homme. Effectivement, ce n'est pas très familier pour nous. C'est pourtant bien ce que dira un célèbre père de l'Église, saint Irénée de Lyon. La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant, et la vie de l'homme est la connaissance de Dieu. La prière est tout entière tournée vers celui qui est le magnifique. Il est bien plus encore dans sa présence à l'homme, dans la responsabilité qu'il lui confie. En priant ce psaume, nous penserons inévitablement au récit de la Genèse, selon lequel l'homme, créé à l'image de Dieu, est appelé à régner sur le monde. Mais dans le psaume, le récit deviendra contemplation. Nous serons projetés dans le mystère du monde comme lieu d'une rencontre. Stupéfaits d'y être à la fois si petits, si perdu dans le cosmos et pourtant si précieux pour celui qui vient nous y visiter et qui nous fait participer à sa victoire et à son règne. Les questions que l'humanité se pose aujourd'hui dans son rapport à son environnement, mais aussi à son environnement cosmique, ou les questions plus personnelles que chacun éprouve dans sa présence au monde, peuvent alors nous montrer à l'esprit et recevoir de ce psaume une lumière nouvelle. Naturellement, nous aurons à nous demander quelle révélation de l'homme par excellence, à savoir Jésus-Christ, nous offre ce psaume de l'homme. N'est-ce pas en lui que s'accomplit la vocation que Dieu nous destine dès l'origine? Este homo, voici l'homme, Jean 19. C'est un psaume pour contempler le Christ. Voici l'homme. Dans le Nouveau Testament, le psaume 8 est cité pour interpréter la victoire pascale du Christ Jésus. Cette relecture du psaume pourrait nous éclairer sur notre vocation d'homme dans le dessein de Dieu. Il y a d'abord la première aux Corinthiens. De même, en effet, que tous meurent en Adam, ainsi tous revivront dans le Christ. Mais chacun a son rang, comme prémisse le Christ, ensuite ceux qui seront au Christ lors de son avènement, Puis ce sera la fin, lorsqu'il remettra la royauté à Dieu le Père, après avoir détruit toute principauté, domination et puissance. Un autre texte du Nouveau Testament, aux Hébreux, reprend le psaume 8 dans une perspective qui fait droit à l'importance de la passion du Christ. Je vais vous lire maintenant le psaume 8 pour bien rentrer dans cette prière, dans sa version liturgique, c'est-à-dire qui est utilisée au cours de l'Eucharistie. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Jusqu'aux cieux, ta splendeur est chantée. Par la bouche des enfants, des tout-petits, rempart que tu opposes à l'adversaire, où l'ennemi se brise en sa révolte. À voir ton ciel, ouvrage de tes doigts, la lune et les étoiles que tu fixas. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. Tu l'établis sur les œuvres de tes mains. Tu mets toutes choses à ses pieds. Les troupeaux de bœufs et de brebis, et même les bêtes sauvages. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer. Tout ce qui va son chemin dans les eaux. Ô Seigneur notre Dieu, qu'il est grand ton nom par toute la terre. Loué sois-tu, notre Dieu, car tu as fait la terre pour que l'homme la domine et chante partout la splendeur de ton nom. Loué sois-tu pour Jésus, ton Fils, abaissé quelque temps un peu au-dessous des anges et couronné dans la gloire, Seigneur de toutes choses. Loué soit ton nom. Revenons à l'antienne, c'est les versets 2 et 10. Alors l'antienne d'ouverture est une exaltation du nom du Seigneur. Il est magnifique. Cet adjectif qualifie ce qui est majestueux, formidable, puissant, les grands personnages. Yahvé est le magnifique. Dans sa victoire sur l'orgueil humain, qui voudrait se dresser contre lui et son dessein de salut. Par toute la terre ne vise pas seulement le pays d'Israël, mais la terre entière. Nous sommes déjà dans un contexte universaliste, c'est-à-dire la création. D'emblée, l'accent est mis sur le nom, qui est l'expression de la personne de Dieu, de toute personne, telle qu'il se manifeste dans l'histoire et dans la création. Ici, le centre, c'est la création, plus spécialement celle de l'homme et la responsabilité qui lui est donnée sur l'œuvre de Dieu. Cependant, la préoccupation de l'histoire est bien présente aussi à travers l'évocation d'une hostilité des adversaires et de la manière dont Dieu y fait face. Sur la première strophe, la gloire de Dieu célébrée par les tout-petits. Le lien est établi entre cette splendeur super-céleste du nom et la petitesse de ceux qui sont appelés à le proclamer. Dans ce cas, le psaume ne se contente pas d'exalter la gloire de Dieu comme dépassant les cieux, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus noble dans l'univers. Mais il souligne la capacité des plus petits dans l'humanité, enfants et nourrissons, de reconnaître et de confesser la splendeur du nom de Dieu. Par ailleurs, l'ennemi est désigné par un terme très fort, le revanchard, disposé à reprendre toujours et à toute occasion les hostilités. Les psalmistes parlent souvent de leurs ennemis qu'ils identifient rapidement aux ennemis de Dieu. Mais ici, le psalmiste ne se plaint pas d'un ennemi particulier. Il pense à cette hostilité incessante que Dieu et son dessein sur la création et l'histoire ne cessent de rencontrer. Face aux puissances du chaos qui menacent son œuvre, Dieu a dressé un rempart, la confession de son nom par les tout-petits. C'est notre foi qui est victorieuse du monde. La deuxième strophe, l'attention du magnifique pour le glaiseux, est un autre contraste qui met en relief la transcendance de Dieu. Ce n'est plus seulement la manifestation de sa force dans la faiblesse, c'est l'attention, la sollicitude qu'il manifeste, lui, le magnifique, à l'humain. D'un côté, celui qui, tel un joaillier, cisèle de ses doigts les cieux, la lune et les étoiles, et de l'autre, le fils d'Adam, c'est-à-dire le terreux, le glaiseux, l'homme. Or, c'est ce Dieu-là qui s'occupe de l'être humain. La troisième strophe, c'est la responsabilité de l'homme, vice-roi de la création. Je fais le lien avec le livre de Paul Evdokhinov qu'on a lu dans une séance précédente. La souveraineté de l'homme jusque sur les figures du mal, s'il le choisit et s'il se redresse. Voilà, chers auditeurs, pour ce psaume que je vous invite à relire et à méditer.